partons sur Gap. Partons sur Gap un petit peu. Voilà. Donc.
Partons sur Gap, on dit. Hein.
Tu fais toujours partie du conseil municipal ?
Toujours.
Et tu y vas ?
Oh, pas souvent.
C'est bien ce qui me semblait, ça. Tu vois ? Parce que moi, je lis les comptes rendus du conseil municipal.
Mais je sais que Jean-Claude Lee, il nous accompagne.
Je vous accompagne et je suis un peu perturbé par le fait que. Moi, j'ai un principe. Mais peut-être que je suis le vieux de la vieille. Hein. Je suis complètement con. J'ai un principe, c'est que quand on est élu, soit on assume son mandat. Parce que la population t'a élu, c'est une question de démocratie, on parle de démocratie. Soit si j'arrive pas à assumer mon mandat, je m'en vais.
Est-ce que tu vas revenir ?
C'est ce qui m'est arrivé, puisque moi, l'accord que j'ai fait 6 ans. Quand je suis reparti pour le deuxième mandat, je leur ai dit oui, mais je m'arrête en milieu de mandat. C'était l'accord que j'avais, parce que j'avais d'autres projets, notamment au niveau ESS et la mutualité. Voilà, parce que je pense qu'il faut, parce qu'on critiquait les politiques tout à l'heure, à juste titre, hein. J'en fais partie de ceux qui les critiquent, parce que franchement, ils nous racontent n'importe quelle connerie, ça commence à me gonfler.
Il les défendait tout à l'heure, il dit qu'il fallait pas trop leur taper dessus.
Ça dépend lesquels.
Moi je dis, les politiques, on a le droit de les critiquer, mais que quand on est, on a un mandat politique... Il faut qu'on soit exemplaire.
La parole est à la défense.
Voilà. Oh non, j'ai absolument pas de défense. Moi, tu sais, dans la vie perso, les gens traversent des phases. Je vais quand même pas raconter ma vie privée, donc point. J'irai pas plus loin. Merci beaucoup.
En revanche,
je réponds juste à un truc. Ça m'a pas du tout empêché, notamment de participer avec l'équipe. Ça m'empêche pas, d'ailleurs, de donner mon pouvoir à chaque mandat, à chaque conseil municipal quand je peux pas venir. Là-dessus, j'ai pas de sujet. L'équipe le sait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu vois. Ce groupe qui s'est constitué pour les élections dernières, il vit très bien.
Oui.
Il se construit avec des émergences de nouvelles personnalités. Oui. C'est un collectif, c'est pas une personne, ça relève pas justement de Jupiter. Et en l'occurrence, je suis très content de voir que les choses s'organisent et il n'y a pas forcément besoin que je sois en permanence là. Voilà, après, le mandat, c'est aussi une vie à côté. Si j'étais dans un exécutif, la question se poserait différemment. Aujourd'hui, tu sais aussi ce que c'est que d'être dans l'opposition à Roger Didier. C'est un conseil municipal tous les 2 mois. Et en l'occurrence, des débats très stériles sur lesquels tu peux pas faire grand-chose. C'est souvent beaucoup de temps perdu. Et c'est vrai. En revanche, que dès qu'il y a des sujets un peu en pointe, des recours, etc., on les mène ensemble.
On sait que tu as eu des ambitions politiques. Est-ce que tu as encore des ambitions politiques aujourd'hui? Ou alors, that's all, folks?
Je dirais pas c'est terminé, la vie est longue, j'ai 40 ans, donc si tu veux, j'ai plein de choses à faire de ma vie. Aujourd'hui, je suis dans un temps de vie qui fait que j'ai d'autres priorités, d'autres sujets. Et en l'occurrence, je crois toujours en la politique.
J'ai relevé une phrase que tu m'as glissée dernièrement. Tu as dit, tu me reprends si je me trompe, hein. J'ai bien noté. Je me suis rendu compte que j'avais trop de convictions pour faire de la politique. Est-ce que c'est ça?
Oui, c'est vrai, je suis très déçu en fait de plein de sujets et c'est vrai que ça me fait beaucoup réfléchir à mes engagements. Moi, tu sais, j'ai 40 ans, j'ai commencé la politique à 15 ans.
Ah
non,
oui,
non, mais même avant.
Non, mais
Et j'ai des convictions profondes. Et le problème de ce monde politique, c'est que tout le monde s'assoit dessus dès qu'ils sont au pouvoir. Mon expérience à Marseille, elle est assez critique pour moi parce qu'en vérité, c'est l'espérance d'un changement, c'est l'espérance d'une nouvelle façon de faire de la politique avec un collectif de citoyens, etc.
Si je me souviens bien, tu es arrivé dans une mairie qui était à gauche et qui est passée verte, hein, c'est ça?
Elle était verte, elle est passée à gauche.
En fait,
si tu veux, là-bas, d'un collectif citoyen, de gens qui croyaient vraiment pouvoir faire de la politique différemment, les apparatchiks, les partis politiques ont repris la main. Et c'est à nouveau des choses très décevantes qui s'y passent, où finalement le projet. Tu vois, l'intérêt général, la façon de changer la ville pour faire en sorte que, même si on n'est pas réélu quelques années plus tard, le plus important, c'est de faire. Bon, en fait, tout le monde s'assoit dessus et au final, emporte à nouveau, si tu veux, tout ce que moi, je veux plus voir en politique. Et c'est vrai que, oui, ça me donne pas d'espoir dans l'immédiat. J'ai l'impression, si tu veux, que c'est un peu toujours les mêmes reproductions. C'est très décevant et là où... C'est vrai, quand je te disais ça, et je le porte à 2000%, je me demande si j'ai pas trop de convictions, trop de fondamentaux, trop de lignes, tu vois, que je veux pas dépasser en fait, des choses sur lesquelles je veux pas m'asseoir pour pouvoir faire de la politique dans le mauvais sens du terme.
Tu ne veux pas manger ton chapeau, comme on dit.
Non, je m'assois pas sur mes convictions, je dis pas en fait là-dessus, oui, bah on va plutôt faire blanc parce que politiquement c'est mieux de faire blanc, même si
tu sais que la politique c'est des compromis.
Ah non, mais les compromis, j'ai pas de problème avec ça. Moi, la discussion, l'échange qui arrive à aboutir sur un compromis avec la population, sur telle grande politique publique, etc., ne me dérange pas. Quand ça devient des compromissions individuelles pour faire en sorte d'être élu et que c'est la seule ambition de beaucoup de gens, moi, je ne m'y reconnais pas. Je fais de la politique, pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé à... Mon père était prof d'histoire géo, je lisais plein de bouquins chez moi, j'ai lu Karl Marx, j'avais 14 ans... Et j'avais l'impression quand même que le vrai sens d'un engagement politique, c'est de faire changer le monde. C'est pas de tenir le pouvoir, en fait. C'est pas moi. Et puis Roger Didier ici, c'est la même chose. En fait, être maire pour être maire et servir ses amis ou quoi que ce soit, en fait, ne m'intéresse pas. Fondamentalement, je pense pas qu'on fasse de la politique, si tu veux, pour être élu, pour gagner des voix. En fait, quand tout est un calcul politique, ça devient quand même très fatigant et compliqué.
On fait pas de la politique pour ça. On fait de la politique dans l'intérêt des habitants.
Oui, mais toi aussi. Mais ceux qui aujourd'hui
de la ville. Je te donne un exemple concret. Il y en a une rue. Je pourrais en prendre plusieurs. Avoir des convictions politiques, pour moi, c'est pas contradictoire avec un mandat municipal dans lequel on fait des choses. Par exemple, sur le dossier de l'eau. Le dossier de l'eau arrive à échéance à la fin de l'année. Je me suis battu il y a 12 ans en arrière pour que ce soit gestion publique. J'ai été mis en minorité, c'est normal, j'étais en minorité au conseil municipal, mais je me suis battu, on a travaillé le dossier, on a fait venir des spécialistes, on a monté un dossier qui tenait la route, voilà, puis quand il a fallu voter, l'équipe à Roger Didier, ben, ils sont restés fidèles à la gestion privée de l'eau par Veolia, ce que je conteste pas. Hein. Là, ça revient à échéance. Le fait qu'on ait des valeurs, qu'on porte des valeurs, ça doit nous conduire à remettre le couvert pour aller sur une gestion publique. J'y contribue à mon niveau, parce que maintenant je ne suis plus en première ligne. Moi j'y travaille, tu sais, il y a un groupe de travail, et j'y suis régulièrement pour les aider à essayer de en plus, ça devient de plus en plus urgent de passer en gestion publique. Vu les problèmes écologiques, je ne développe pas, il y a plein d'arguments. Mais
au-delà de la question de la gestion publique ou privée,
je te prends mais
sur la question de l'eau, ça fait quand même maintenant combien 15 ans qu'on sait qu'on va être en déficit d'eau sur cette ville, qu'il faut faire des investissements sur la nappe des Choulières, qu'il faut faire le nécessaire pour aller puiser de l'eau ailleurs, et du coup qu'il faut préserver la ressource en eau, qu'il faut sans doute séparer les eaux grises des eaux potables, etc. Qu'en fait, il y a toute une politique qu'il faudrait mener, que ça demande des millions d'investissements, et que tout le monde s'en... Enfin, pourquoi aujourd'hui, par exemple, un mec comme Roger Didier ne le fait pas? Pourquoi? Parce que ça n'est pas porteur politiquement. Alors, en fait, avoir une vision, investir des millions pour une vision prospective, est ce que devraient faire les politiques, c'est-à-dire, je sais que dans 15 ans, dans 20 ans, je vais avoir un déficit d'eau, donc à date, je fais 15 millions, 20 millions d'investissements. Je sais qu'effectivement, les gens vont pas m'applaudir tout de suite, parce que ça sera pas forcément compris. Eh bien, ça, c'est faire de la politique. C'est-à-dire que c'est anticiper les sujets, regarder la vision, et du coup investir au bon endroit.
C'est peut-être aussi parce que Roger Didier a pas la même vision que vous deux sur l'eau.
Mais il y a des sujets sur lesquels tu peux pas passer à côté. La question, à la rigueur, la question du public-privé, ça peut être un mode de délégation, de gestion. Ça, c'est peut-être une question, effectivement, de vision politique, de savoir où est-ce que doit aller l'argent, comment ça s'organise, comment les choses s'organisent, comment on gère les investissements. La question de savoir, en fait, comment préserver la ressource en eau, la question de savoir comment on va boire de l'eau potable dans cette ville dans quelques années, etc. Ça, c'est même pas un autre truc politique, c'est pas une question de vision, c'est une question, en fait, de responsabilité du politique. Tu ne peux pas passer à côté de ce sujet depuis des dizaines d'années, alors que tout le monde sait, Pierre Bernard Raymond le savait déjà. En fait, lui, il avait déjà prévu les investissements nécessaires. Mais pourquoi, en fait, ils ne sont pas faits? C'est parce qu'on sait qu'électoralement, ça ne rapporte rien. Et donc, tu ne fais pas les investissements parce que tu te dis que la population ne comprendra pas ton investissement et ça ne va pas te rapporter.
Selon toi, la population comprendra mieux l'eau, mais avec le miroir.
Alors,
oui,
bah là,
effectivement.
Je vais te dire, elle va peut-être comprendre que c'est n'importe
bonne,
quoi.
Elle est très bonne, ton image.
Bah oui,
c'est exactement ça.
Oui,
c'est-à-dire que les gens, ils voient l'immédiateté, le miroir, c'est joli un miroir, tu le vois. Alors qu'avoir une prospective sur la qualité de l'eau, sur les problèmes d'assainissement, par exemple, aujourd'hui, on est face à un problème dans cette ville,
ben
personne n'en parle.
Bien sûr.
Sur l'assainissement, on a un problème majeur que j'ai porté pendant des années. Mais personne s'en fout, tout le monde s'en fout.
Tout le monde s'en fout.
C'est l'inverse. Donc, effectivement, c'est ça qui... Moi, faire de la politique, c'est ça. C'est pas faire de la politique politicienne. C'est se projeter dans les 10 à 15 ans à venir, comment notre société va évoluer. Par exemple, cette année, on a de l'eau. On a de la chance. Mm-hmm. Mais
Il y a 2 ans, on en avait moins.
Je lisais les prévisions à venir.
Bah, aussi, hein.
Les prévisions à venir, il faut les prendre avec des pincettes. Mais les prévisions à venir pour juillet, juin, juillet, août, même septembre, on va vers une période extrêmement chaude. Mmh. C'est ce que disent les prévisionnistes sérieux. Hein.
Oui, ça serait bien quand même, parce que là, en ce moment, on se pèle un peu quand même. Ouais. Hein,
rien à dire, oui, mais on va le regretter, le froid. Hein. Et donc, ça veut dire que ces problématiques d'eau vont revenir brutalement sur la table.
Ouais.
Et à un moment, on va se retrouver complètement à poil parce qu'on n'a pas anticipé ces problèmes.
Alors, sur la gestion de la ville de Gap, qu'est-ce que...
Alors, je ne me prononcerai pas parce que je ne suis pas savant. Mais c'est quand même sur le fond, et pas par rapport à l'eau, mais par rapport à la critique des politiques, je vous entends tous les deux, c'est quand même assez curieux, il n'y a pas que vous, hein, de se retrouver dans l'opposition et de se dire, il y a quelqu'un qui a été élu par une majorité de gens qui pensent comme moi, et moi, je pense différemment et j'aimerais qu'on m'écoute. Et ça serait de la politique. Non, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est d'avoir le courage d'être dans l'opposition, oui, de rester à sa place, d'essayer de faire passer ses idées. Oui. Et quand je dis essayer de faire passer ses idées, softement. Parce qu'effectivement, il y en a un qui est devenu très fort. Enfin, allez, pardon. Je ne vais pas les séparer puisqu'il y a l'extrême gauche et l'extrême droite.
Attention, Jean-Luc Mélenchon, voilà, va prendre une balle.
Ça y est, ça revient.
C'est pour ça que je les cite tous, ouais, les deux. Vous, je ne
tu
vous
peux
ai pas
t'empêcher.
Je ne vous ai pas interrompu. Pourtant, je pourrais.
Laissez-le, hein, parler, s'il vous plaît.
Et alors, c'est sûr que eux, ils ne restent pas dans l'opposition sagement ou softement. Et c'est leur façon de faire de la politique. D'accord. Je préfère quand même la vôtre. C'est-à-dire critiquer le fait que malheureusement il n'y a pas, enfin que celui qui a été élu ne pense pas comme vous, je le comprends, voilà. Mais au moins vous ne faites pas la révolution, parce que faire la révolution, ça donne envie aux autres de faire la révolution. Et si un jour tout le monde a envie de faire la révolution, c'est pas forcément ceux que l'on croit qui vont gagner, parce que ceux que l'on croit, ils restent quand même minoritaires. Si un jour les gens qui sont majoritaires se disent on en a marre de ces minorités qui font la révolution, je vous dis pas le bordel, voilà. Donc moi, sur le fond, simplement ce que je pense, c'est que non, vous faites bien de la politique, les gars, ne critiquez pas trop, c'est bien. Oui. Vous êtes à votre place et continuez, parce que si vraiment on a un problème avec l'eau, toi, tu, malheureusement, t'es un peu comme moi, t'es un peu trop vieux, mais toi, Christophe, si un jour t'es maire de Gap, eh ben, le jour où t'auras le pouvoir, si un jour tu l'as... Non, mais pardon, mais je te respecte. Tu m'as tout appris dans les organisations syndicales, donc tu sais très bien que je te respecte. Mais toi, Christophe, si un jour t'es maire de Gap, ben, nous, on se souviendra tout ce que t'as dit, même si on est six pieds sous terre.
T'as intérêt à faire le haut, t'as intérêt.
Et il est jamais trop tard, tu sais. Je pense qu'il est jamais trop tard pour faire bien. Et puis après, si malheureusement c'est trop tard, bon, faut quand même pas tous qu'on se prenne pour des dieux. Les humains sur l'ensemble de l'univers, si un jour on disparaît, c'est pas très grave. Hein. Moi, j'ai pas envie de vivre une sinistrose, tout ce qui me reste à vivre, en me disant « Mon Dieu, la planète, dans quel état je la laisse ? Oh, mes enfants !» Mais tout ça va se régler automatiquement, à mon avis. Hein. Si un jour, d'ailleurs, on le voit, ouais, en ce moment, hein, dans les civilisations les plus riches, où on se rend compte, parce que peut-être qu'on est les plus riches, qu'on a un peu déconné, on fait de moins en moins d'enfants. Automatiquement, voilà. Et comme le problème sur la planète, quelque part, c'est quand même le nombre d'habitants, il faut se dire qu'il y a peut-être des choses qui vont se régler toutes seules. Et si elles ne se règlent pas,
ça peut être aussi plus brutal que ça. C'est-à-dire que le,
oui,
problème, c'est que...
Et alors, plus brutal que ça. Une météorite qui arrive, qui plonge la Terre dans un...
Ça peut être plus brutal. Parce que
on peut jouer les Bruce Willis de la politique, mais il faut rester sur des choses simples. Hein, voilà.
Tu risques d'avoir quand même des guerres, tu risques quand même d'avoir des vagues migratoires qui vont être violentes.
Ça ne sera pas les plus riches, ça.
Oui, oui, mais justement, c'est bien le sujet. C'est qu'en fait, qui est-ce qui va une nouvelle fois souffrir le plus de toutes ces situations, c'est évidemment
toujours
les plus
pauvres. Oui, bien sûr.
Eh ben oui,
c'est sûr.
Mais donc, moi, ce que j'ai quand même un vrai sujet.
Non, les plus pauvres et les plus jeunes. Hein.
Tu vois, quand on parlait de la baisse du niveau politique tout à l'heure, et quand on parle de prospective, de vision et de savoir où est-ce qu'on va, et c'est ça la responsabilité du politique, je trouve que le citoyen a aussi une responsabilité très importante dans sa capacité aujourd'hui
à ne plus
s'intéresser aux choses et au débat et au fond, en fait. Parce que Le citoyen dans la démocratie, il doit aussi travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les politiques qui doivent faire des blablas dans les médias, etc. Le citoyen, il doit s'intéresser, il doit prendre sa part dans le débat public, il doit comprendre ce qui se passe et pourquoi il vote. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'une partie des citoyens se désengagent eux-mêmes de leur propre responsabilité dans une démocratie.
Michel.
Disons que le citoyen, lui, délègue son pouvoir à travers le vote. Et je suis ravi d'entendre ce que je viens d'entendre, car je me suis permis de dire que les sociétés vont plus vite. elles vont plus vite. Mmh. Mais c'est pas pour autant qu'elles vont, comment dire, qu'elles vont commander. Et charge aux politiques de gérer et d'organiser les choses. Mmh. Sauf que malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de corporatisme qui sera dévastateur dans pas longtemps. Ça explique un peu ce que tu disais. Pourquoi il y en a qui gagnent ça et pourquoi il y en a qui gagnent ça. Pourquoi d'un côté, il y en a qui sont déjà des privilégiés, qui sont contents de rien, jaloux de tout, qui en veulent encore plus au détriment de d'autres secteurs d'activité. C'est désolant. Pour revenir sur le miroir d'eau de Gap,
oui.
Donc il y a. Oui, je fais le coq à l'âne pour le coup.
Oui,
tu as raison.
Ce qu'il faut savoir, je rebondirai sur ce que disait Jean-Claude. C'est vrai, il y a un moment donné, on doit flécher les budgets. On est quand même, pour le citoyen qui a délégué, mais bon, qui sera frustré dans la finalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, augmenter les impôts pour pouvoir abonder sur certaines choses. Il y a des priorités, vous avez parlé des réseaux d'eau, de l'assainissement, etc. On se pose des questions, pourquoi on ne va pas flécher d'abord l'argent sur des priorités qui dans 20 ans seront une formalité, alors que ça va être à un moment donné un obstacle de fond. Après, c'est vrai, il faut embellir la ville. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas fallu attendre un peu des jours meilleurs avec des rentrées d'argent meilleures? Un petit détail, on s'aperçoit effectivement qu'en termes démographiques, Gap semble perdre un tout petit peu des individus. Ce qui laisse entendre que ça erronne un peu votre réflexion dans le sens où la quantité d'eau sera un peu moindre. Alors je ne sais pas, il n'y a pas grand monde, il y a peut-être 40-50 personnes en moins. Mais c'est peut-être un premier indice qui démontre qu'il n'y a peut-être pas assez de débouchés professionnels, j'en sais rien. Je ne sais pas de quel ordre. Mais il y a un moment donné, le principe démographique, eh ben ouais, il aura aussi qui va stimuler l'économie. Sans développement démographique, aujourd'hui, on ne sait pas faire une économie florissante. On ne sait pas faire.
Non.
Et pourtant, il va falloir porter des réflexions. Comment on peut générer une nouvelle économie avec une décroissance démographique.
Demande à Carlos Tavares.
Moi, ce qui me marque
on
toujours.
On a plein de gens.
Non, mais la réponse, qui... elle est. Content de rien, jaloux de tout. Tu échappes pas à la règle, mon cher.
Oh non, moi ça va.
Non, mais tu as raison de pointer la démographie parce que ça c'est un indicateur. Alors. C'est marrant parce que nos hommes politiques, et notamment nos élus, le maire de Gap, mais le maire de Briançon pareil, ils mettent la poussière sous le tapis en la matière. Mmh. Parce que moi, je serais à leur place, je m'inquiéterais, je me poserais des questions. Pourquoi la ville de Gap stagne? C'est pas normal, il y a un problème, il va falloir peut-être l'étudier pourquoi. Et la ville de Briançon, eux, ils reculent de 15%. Mmh. C'est dramatique. Peut-être que.
C'est parce qu'il fait froid.
Est-ce que le maire de Briançon se pose la question? Je sais pas.
Mais il fait froid.
Mais ça, c'est vraiment des sujets.
Briançon, il fait froid.
C'est vraiment des sujets qu'il faut aborder. Elle va où la population? On l'a vu où elle va?
Elle va
à la Bâtie-Neuve, elle va à Chorges.
Il fait plus chaud.
Elle va au sud, partout.
Au sud?
Ça veut dire, oui, elle va pas très loin.
Non mais je te charrie.
Elle va pas très loin. Non mais c'est sérieux ce que je te dis,
oui,
c'est pas des blagues. Parce que ça veut dire que si la population va s'installer à Chorges, à la Bâtie-Neuve, à la Fraissinouse, à Pelletier et ailleurs, il va falloir réfléchir sur les transports.
Mmh.
Parce que la population se déplace vers l'extérieur. Elle ne vient plus habiter dans le centre-ville, dans la ville-centre. Il faut falloir... C'est ça, être un homme politique, une femme politique, un élu.
Eh ben, il fait des parkings.
Voilà. mais c'est pas ça que je ferais.
C'est notre solution.
Voilà.
C'est notre solution.
Sûrement des transports. Mmh. Organiser des transports.
En tout cas...
Le projet que portait
loyers,
Pierre Bernard Raymond, qui était un visionnaire à sa façon, je le reconnais.
L'autoroute?
Non. Il avait parlé du tram-train. Cette question est toujours d'actualité. Il faudra bien se la poser un jour. Comment on fait les gens? Vous allez des fois à Briançon le matin, le nombre de voitures qui sont dans le sens qui rentre à Gap.
Il y a un vrai problème
écologique en plus.
Non, mais c'est sérieux
la problème.
Avec ce qu'on vient d'entendre du train cette semaine, tu vois.
Alors attendez. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a le train?
Pas possible. Deux minutes.
On laisse
deux
animateurs maintenant.
Moi, ce qui me marque le plus en politique, c'est que les meilleures idées, elles sont toujours du côté de l'opposition. Ça, c'est quelque chose c'est qui ce m'a que j'ai dit toujours tout à l'heure. Marqué.
Mais c'est pas vrai d'abord.
Mais si, si. Non, parce que c'est tellement facile d'être alors, dans l'opposition de dire ouais, bah ouais, ils font ça, mais c'est n'importe quoi. En fait, il faut faire ça. Et quand les gens qui sont dans l'opposition oui. se retrouvent aux affaires, ils font comme les autres.
Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la démocratie.
Bah, oui, c'est
ça. On a une chance énorme d'être
ah,
dans
oui.
un
ah,
pays
oui, ça, c'est sûr.
De liberté et de démocratie.
Mon Dieu.
Il y a des pays, c'est des dictatures.
Mais au niveau au niveau local, je suis pas totalement d'accord.
Moi,
avec
mélenchant
toi
pas, je
attends,
suis brûlé.
Aujourd'hui, si tu prends des communes qui ont été gouvernées, par exemple, par des Alain Juppé, qui n'est pas de Montbord, ou bien par des Catherine Trottmann à Strasbourg, là, pour le coup, plus de Montbord, mais tu peux effectivement prendre un Georges Frêche à Montpellier, que j'ai détesté plus que tout. Il n'empêche que les politiques qu'ils ont menées dans leur ville, elles ont fait l'unanimité, les gens sont reconnaissants et tout le monde dit que ça a été des grands-mères,
même Balkany, hein.
etc.
Même Balkany.
Non mais, Balkany, ça demande un débat un peu plus complexe.
Mais
parce
non. Je
vérité,
te dis seulement que les habitants de Levallois,
oui, mais c'est,
alors, ils sont ravis de ce qu'a fait Balkany.
Ok. Alors sauf que la différence, c'est que à Levallois-Perret, tu as un sujet qui s'appelle la taxe des entreprises qui est reversée dans cette commune et qui, comme à Puteaux et les communes de la Défense, c'est une manne monumentale. Je te rappelle que la maire de Puteaux a acheté un aspirateur aux personnes âgées dans sa ville chaque année pour Noël parce qu'elle ne sait même plus quoi faire de son argent. Donc, non mais c'est quand même dingue. C'est un peu différent dans les statuts. Quand tu prends des villes entre guillemets normales avec une population, des entreprises, etc. Il y a des maires qui sont des grands-mères bâtisseurs qui ont été reconnus dans leur temps, qui sont reconnus dans la durée et qui ne sont pas forcément de mon bord. Et moi, je suis capable d'en citer, tu vois. Alain Juppé, maire de Bordeaux, j'ai trouvé que c'était sans doute un grand maire de Bordeaux. D'ailleurs,
la maire de Lille aussi.
Peut-être d'ailleurs que notre ami Roger Dillet est allé faire un tour à Bordeaux, il a vu
le miroir,
il s'est dit tiens, il faut la même chose. Des dizaines d'années après, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on est comme aussi pas l'eau. C'est vrai que c'est important de mettre un miroir d'eau. Mais c'est vrai que,
C'est de l'eau grand cycle, non?
Je peux contester Alain Juppé, Premier ministre. Parce que pour le coup, je partageais absolument pas avec lui sa vision nationale, etc. Donc, tu vois, je pense que la démocratie, elle souffre aussi de cette incapacité, tu as raison, à dire quand c'est bien et quand c'est pas bien. Mais il y a des trucs. Mais Roger Didier, moi, si demain, il fait une politique qui me convient, je l'applaudis. Aujourd'hui, c'est juste que je pense qu'il est complètement à côté de la plaque, que c'est des politiques. Et tu vois, cet exemple-là de Démichel, il n'y a rien qui va. Un miroir d'eau quand on a besoin d'eau, un parking en plein centre-ville à un endroit où, pour le coup, les bagnoles sur le cours La Doucette, etc., c'est déjà un enfer, les pistes cyclables. Vous avez déjà pris un vélo sur le cours La Doucette?
C'est un aspirateur.
Non, mais t'as envie. Mais avec mes enfants, je ne passe jamais là parce qu'en vérité, tu risques à tout moment de prendre une voiture. Donc, aller mettre un parking à cet endroit-là, c'est complètement anachronique. En fait, dans cet endroit-là, sur le parking des Michel, ça démontre l'incapacité, si tu veux, à voir l'avenir, à faire de la prospective. Et donc, évidemment, je combats, en fait, ce genre de...
Moi, je combats deux choses. Je combats ce qu'il fait, tu viens de le dire, je ne vais pas rajouter, je suis d'accord, mais je combats aussi la façon dont il le fait.
D'accord.
Ça, c'est pas acceptable. La façon... Moi, je rappelle quand même ici, et je n'ai pas peur de le dire à l'antenne, que quand j'intervenais, il me faisait huer par son équipe. Et quand il répondait, il se faisait applaudir par son équipe.
Ah oui, moi aussi.
C'est une des raisons qui fait que je suis parti. Parce que je lui ai dit plusieurs fois, ce n'est pas un ring de boxe, le débat au conseil municipal. Certes, c'est public, les gens peuvent venir, mais on n'est pas là. On n'est pas dans un match de
boxe. Vous êtes en train de nous définir la politique. Vous avez déjà vu ce qui se passe à Paris, à la mairie?
Non, je ne suis pas d'accord.
C'est pas soft.
La ministre de...
avec la ministre... Mais oui. Non, mais dans toutes les mairies de France et de Navarre, ça se passe comme ça.
Tu vois, Thierry.
Là, vous découvrez l'eau chaude, les enfants.
Juste un truc, parce qu'on dit toujours...
Boulot tiède.
On dit toujours, les oppositions sont toujours en contestation, machin, tout ça. Mais... qu'est-ce qui empêche une majorité de discuter avec son opposition pour prendre des bonnes idées aussi? Parce qu'en fait, on reproche toujours à une opposition de s'opposer, ce qui est à peu près normal. Mais dans les idées en fait, que l'opposition sort, il y a peut-être des bonnes idées aussi d'ailleurs. Parce qu'on dit toujours, tu vois ce que disait Pierre-Louis avant, ah ben oui, la majorité, ils ont été élus par une majorité, donc c'est vraiment, ils ont forcément raison. Oui, d'accord, mais sauf qu'en fait, il y a une partie de la population qui est aussi représentée par l'opposition. Et cette partie-là, en fait, elle pourrait être écoutée au même titre. On pourrait avoir une façon de gouverner, moi je suis d'accord avec Jean-Claude, qui est beaucoup plus démocratique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui empêche Roger Didier, par exemple, de se dire, putain, c'est vrai que cette idée-là, elle n'est pas mauvaise. venez travailler avec moi sur cette idée, on va essayer de la faire ensemble.
Et mais vous êtes en train de me dire que jamais Roger Didier ne va écouter quelque chose que vous allez apporter.
Moi j'ai deux exemples concrets et qui existent toujours. C'est quand il a fallu
sur le
portage des repas.
Ouais.
Le portage des repas organisé par CCAS à la Vie de Gap, tout le monde payait la même somme. Et moi plusieurs fois j'ai dit mais je comprends pas pourquoi on n'applique pas le coefficient social. Les gens qui ont les moyens payent plus cher que ceux qui n'ont pas les moyens. Eh bien ça, il a mis en place. Il m'a dit, monsieur Héron...
Voilà, bonne idée.
Bonne idée. Il a mis en place.
Et il t'a fait applaudir.
Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Et deuxième idée, c'est quand on a fixé les tarifs de ski de fond, quand il y avait encore de la neige, maintenant, au col Bayard, et je lui disais toujours, mais il faudrait faire une tarification qui permette de favoriser la participation de tous à la pratique du ski de fond. Un jour, il m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit... Voilà, je vous fais cette proposition. J'ai validé la proposition. La proposition est toujours...
Depuis qu'il n'y a plus de neige.
Il y a eu deux cas, effectivement, où il a tenu compte.
Et Jean-Claude, il s'est mis au golf.
Voilà. Bon, pourquoi pas, j'y pensais, mais c'est un peu cher. Hein.